Vous allez découvrir aujourd'hui un voyage dans un livre de la Bible que peut-être vous avez déjà lu en vous demandant exactement de quoi il s'agissait et que vous allez peut-être aujourd'hui lire avec des lunettes différentes.
Oui.
Ce livre dont je parle est le Cantique des Cantiques et on va vous inviter à nous y rejoindre. C'est un livre de la Bible, de l'Ancien Testament, qui a été probablement écrit par le roi Salomon et qui peut être compris à différents niveaux. Le premier, il peut s'agir en fait de la relation d'amour entre le roi Salomon et l'une de ses multiples épouses ou concubines. Ça, c'est un premier niveau de lecture qui est tout à fait bon et valable. Un autre, c'est celui symboliquement de la représentation de la relation entre Christ et son épouse. Relation spirituelle, relation qui est véritable. Mais on voudrait, et tous ces niveaux sont justes et sont vrais, mais on voudrait vous intéresser à une autre approche de lecture. Et c'est cette paire de lunettes-là qu'on voudrait que vous preniez, parce qu'en fait, il s'agit aussi d'une relation d'amour physique entre un mari et son épouse. Alors, j'espère que vous ne serez pas choqués, ce n'est pas du tout notre point ici, mais vous allez voir qu'en fait, il s'agit bien d'une relation physique.
Donc on va vous décrire sept actes en fait en voyageant au travers de ce livre et on va décortiquer avec vous cette relation qui se construit entre cet homme et cette femme qui vont devenir mari et femme. Je vous invite à prendre votre Bible d'ailleurs si vous voulez avec vous pendant ce module pour pouvoir suivre. Le module numéro 1.
Alors, le premier acte, c'est l'art de l'attirance.
Ah, vous vous souvenez quand les papillons dans l'estomac commencent à arriver, quand on commence à regarder ce beau jeune homme ou cette belle jeune fille avec des yeux un petit peu di différents, on rentre dans cette première phase. Ici, l'homme dans Cantique des Cantiques nous est décrit en parlant de son caractère, en fait. On va parler de sa réputation, de sa relation avec Dieu. Il va y avoir aussi tout un passage sur son physique, avec une notion avec de l'huile odorante. Son nom est comparable à une huile odorante. Son aspect physique est décrit dans cette première partie de l'attirance, mais ce n'est pas la plus importante. Son caractère est plus important que son aspect physique. Et chez elle, c'est intéressant de voir que, en fait, elle va se présenter comme n'étant pas belle. Donc, elle va mettre en second son aspect physique, mais elle va cacher sa beauté derrière physique extérieur, derrière une beauté intérieure, en fait, en expliquant que, ben, ma foi, si sa peau est un peu tannée par le soleil, c'est parce qu'elle a été obéissante. Obéissante à ses frères et qu'elle a été soumise à ce qui se passait dans sa famille, dans ce contexte-là.
Est-ce que ça veut dire qu'elle veut déjà le séduire et l'attirer par qui elle est au niveau de sa personnalité avant que de le laisser s'intéresser à quoi elle ressemble avec
C'est
son
ça.
corps et sa beauté
La
physique?
beauté intérieure chez les deux va être ce qui va attirer l'œil du futur conjoint ici, du futur, du beau et de la belle. La beauté intérieure va venir avant la beauté extérieure, mais elle est décrite, elle est aussi importante dans cette partie d'attirance. En fait, ils sont en recherche de l'homme et de la femme que Dieu a prévu pour eux. L'attirance est réelle, on peut la sentir dans cette description.
Le deuxième acte, c'est celui de la fréquentation.
Alors, vous vous souvenez, dans les premiers modules, on a parlé de cette construction de l'amitié. On le voit démontré ici. Ils vont apprendre à se connaître en gardant leur distance. Il va y avoir une découverte de qui ils sont dans un cadre sécurisé. Ils vont aussi avoir du plaisir à s'asseoir l'un avec l'autre, à discuter. Dans cette période de fréquentation, la discussion, le dialogue est extrêmement important parce qu'on construit ces fameuses bases tellement nécessaires après pour la construction d'une sexualité. Vous vous souvenez, tout passe par la connexion en fait. Quand on regarde vraiment au cœur de ce que la sexualité est, c'est cette union de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc ça passe par une connexion. On va avoir besoin de dialogue. Elle va parler avec beaucoup de douceur.
Alors, il la
Oui.
protège, il la rassure. Et messieurs, rappelez-vous que la douceur, c'est un élément indispensable dans de qualité de relation dans le couple pour que l'épouse se sente aimée.
Et puis, le désir grandit. Souvenez-vous, on a beaucoup parlé du fait de ne pas fermer, verrouiller le désir, mais de le canaliser. On le voit qui grandit avec ces notions de gazelle, de jeune cerf, que l'hiver est passé. On sent la sève qui monte là, au sens propre et au figuré. Les hormones travaillent, les corps s'échauffent, mais on va rester encore dans le cadre de ne pas dépasser cette fameuse ligne rouge. Mais cette notion d'exclusivité va se construire. Ils vont se préparer à n'être qu'un avec l'autre.
Alors là, c'est le troisième acte, celui de l'engagement. Rappelez-vous, l'exclusivité d'une relation émotionnelle, spirituelle et physique ne peut se vivre que
Oui.
avec celui ou celle qui est notre conjoint.
Il y a une notion de confiance qui est très importante pour la sexualité. On a besoin de se sentir en confiance, surtout l'épouse en fait. Et puis, si vous regardez la colombe nichée dans les fentes du rocher, ça nous inspire vraiment la confiance qu'ils ont réussi à créer. Ils ont pris le temps, ils prennent le temps pour que rien ne leur soit volé. Le passage des petits renards aussi est important ici. Ne vous faites rien voler pour ne pas gâcher ce que Dieu vous a donné. L'approche de la fréquentation ici est excellente parce qu'ils découvrent, ils s'approchent dans l'intimité, mais en même temps, ils sont protégés, sans aller trop vite, en prenant le temps.
Vous vous rappelez de ce que l'on avait partagé au niveau de l'échelle de l'amitié, de cette progression dans l'amitié? Eh bien, cette partie est essentielle à développer et ne surtout pas franchir la partie physique avant qu'il n'en soit temps. Et souvent, il y a ce verset qui se répète dans le Cantique des Cantiques, de ne pas réveiller l'amour, sous-entendu physique, avant qu'il n'en soit que le temps ne soit venu.
Alors, le climat de sécurité est là, le désir monte, mais il le garde dans un cadre de grande pureté. Il se prépare à l'acte 4.
Alors, le quatrième acte, c'est celui auquel tout le monde pense parfois, surtout quand on se marie et que la nuit de noces arrive, c'est évidemment le mariage, la nuit de noces, la lune de miel.
Donc, au chapitre 3 hein, de Cantique des Cantiques, du verset 6 à 13, on va avoir la description du mariage. Au début du chapitre 3, ils ne sont pas encore mariés parce que ce n'est pas encore le temps. On réaffirme ici cette notion de sécurité. Il y a vraiment un sentiment d'honneur qui se dégage, de pureté. Ils ont su se protéger et bien cadrer tout ça. Et puis ensuite, dans le chapitre 4, nous avons une description dans le texte de la lune de miel.
Alors c'est là qu'on vous demande vraiment de chausser ces lunettes et d'approcher peut-être ce texte pour la première fois avec un regard sexuel. Encore une fois, il n'y a rien de sale, c'est pur, c'est beau, c'est quelque chose que Dieu veut que vous découvriez et dans lequel vous vous épanouissiez tous les deux. C'est l'un des objectifs de l'union.
La lune de miel démarre au chapitre 4, versets 1 à 6, on va vraiment découvrir la nuit de noces. C'est un mode d'emploi pour le mari, en fait, avec beaucoup de douceur. Regardez les gestes du mari pour sa femme. Il décrit lentement son visage, il prend le temps de la découvrir, le visage, le cou, et puis les seins. Avec beaucoup de douceur, il la met en sécurité et il commence à découvrir son corps et il lui fait des compliments sur chacune des étapes.
Et on voit que tous les sens physiques sont en éveil et se mettent en route, en quelque sorte. Ils démarrent tous les uns après les autres.
Versets 6 à 11. Puis ensuite, regardez le verset 12. Il nous parle ici du vagin de son épouse. Le jardin bien clos, puis qui s'ouvre. Il y goûte même. Pensez à ce que ça peut bien vouloir dire. Mais c'est du vagin de sa femme dont il nous parle. Ce jardin bien clos qui ensuite va s'ouvrir. Puis au verset 15, on parle de puits, d'eau vive, d'eau qui ruisselle du Liban. Là, on est dans la partie beaucoup plus humide de la relation, de la relation sexuelle. Donc, toute la lubrification chez la femme vont se mettre en route, etc. Elle va être complètement prête à recevoir son mari pour la première fois. Et puis ensuite, au verset 16, vous voyez comment on peut vraiment découvrir la progression de l'acte sexuel. Il a pris le temps de la mettre en confiance, de la caresser, que tous les sens s'éveillent les uns après les autres. En prenant soin d'elle comme ça, son vagin a commencé à s'ouvrir, la lubrification s'est mise en place. Et puis au verset 16, les grands vents, douceur et force, on a cette notion de plaisir dans le couple qui est déjà mise en place.
Et d'actes sexuels consommés. Et pour ceux qui seraient là, oulala, mais ça va trop loin tout cela. Rappelez-vous en fait que dans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de séparation entre ce qui est âme, corps et esprit, c'est un. Nous sommes un et c'est un acte éminemment spirituel et émotionnel. L'acte sexuel, il est d'abord émotionnel et spirituel en fait, et les corps sont le véhicule de cette communion émotionnelle et spirituelle entre les deux conjoints.
Et puis il y a une validation de Dieu en fait au démarrage du chapitre 5, « Mangez, amis, et buvez, oui, buvez jusqu'à l'ivresse, mes bien-aimés. » Consommez, réjouissez-vous l'un de l'autre, allez-y maintenant que vous avez attendu, vous avez laissé le désir monter sans faire que réveiller l'amour avant qu'il ne soit le temps, mais maintenant c'est le temps, profitez l'un de l'autre. Magnifique être 4 qui explique vraiment l'épanouissement de la relation sexuelle.
Alors dans l'acte 5, c'est zut, il y a comme un conflit, comme une tension, comme quelque chose qui arrive, Et pour tous ceux qui et celles qui sont mariés, vous savez évidemment que ce sont des choses qui font partie de la vie aussi. On peut avoir et on aura des conflits.
Elle répond avec une réponse assez égoïste. Elle dit « Mais j'ai déjà ôté ma tunique, pourquoi est-ce que je la remettrai ?» etc. Elles vont se disputer, il va s'en aller. Si vous suivez comment ils vont gérer leurs conflits, vous avez une méthodologie pour pouvoir ensuite se réconcilier. Les conflits ne sont pas une menace pour le couple tant qu'il y a réconciliation. Un couple qui va bien,
c'est un couple, en fait, tout couple qui va bien, c'est un couple qui va avoir des tensions, mais qui va apprendre à savoir gérer d'une manière saine les tensions, les conflits qu'ils ont, parce que la plupart du temps, ce sont des occasions de croissance qui, en fait, vont vous rapprocher l'un de l'autre. Donc ne les fuyez pas, ça fait partie de la vie, mais apprenez à les régler d'une manière qui soit saine et équilibrée.
Donc, prenez le temps de regarder tous les deux, discutez-en de la manière avec laquelle ils vont gérer ça. Ils vont apporter une réponse douce à une réponse sèche. Ils vont essayer de ne pas punir l'autre. Ils vont discuter ensemble. La douceur va s'installer dans leur discussion. Il va y avoir du pardon. Ils vont réaffirmer leur amour. Et puis ensuite, la réconciliation arrive. La fin du conflit, ils sont proches à nouveau. Ils sont
donc,
proches au niveau du cœur.
L'acte 6 va nous parler de garder la romance. Envie entre l'un et l'autre. C'est important de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes marié qu'il ne faut pas continuer d'investir dans votre relation. Ce n'est pas parce que je t'aime, je t'ai épousé, puis si ça, quelque chose change, je te le dirai. Non. C'est cette notion de rester amoureux l'un de l'autre, de ne pas considérer l'autre comme déjà gagné, mais de vouloir le reconquérir constamment.
Le chapitre 7 et 8 vont vous aider. Regardez comment le mari parle de sa femme sexuellement. Regardez comment il la complimente, extrêmement important pour qu'elle se trouve belle à ses propres yeux et aux yeux de son mari. Regardez comment elle aussi, elle exprime du désir au niveau sexuel de son mari. Elle parle de son corps, elle parle du désir qu'elle a en elle pour le corps de son mari. Elle va même jusqu'à attiser le désir sexuel de son mari en parlant des choses qu'elle lui a faites dans le passé et des choses nouvelles qu'elle va essayer avec lui. Elle est en train de lui donner des clés ou des indices de ce qu'elle prévoit pour ce moment sexuel qu'elle lui a programmé. Regardez bien, tout ça est clairement expliqué.
Et ça nous conduit vers l'acte 7 et le dernier de ce chapitre où, en fait, on voit qu'il est indispensable de garder la fidélité dans le cadre du couple. Toute cette expérience physique, elle est destinée au couple marié et ne doit pas se vivre en dehors, bien entendu.
Les derniers chapitres, le chapitre 8, nous parle vraiment de cet amour fusionnel et puis exclusif et qui inspire une grande sécurité parce qu'ils se confirment qu'ils seront là l'un à l'autre. En fait, leur corps, leur âme et leur esprit appartiennent à l'autre. Il y a vraiment cette notion de relation qui va être permanente et qui est sécurisée, qui est installée, qui est tellement précieuse. Elle vient de l'Éternel. Regarde ce petit bout du verset qui dit « Elle vient de l'Éternel ». Donc, il y a tout un passage en douceur de construction de la relation amoureuse, puis de consommation et puis le fait de maintenir le désir vivant. Le livre se termine vraiment avec cette notion de don de soi à l'autre.
Et on va conclure par ce verset, justement, du Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le premier verset. « Entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie. Je cueille ma myrrhe et mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. »